Mon meilleur élève qui est ici au premier rang m'a suggéré une question pour commencer ce cours, parce que finalement c'est un cours. C'est est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui sont viscéralement attachés à la poésie? Ou est-ce qu'il y a des gens qui marquent... Il y a des feuilles au fond. Ou est-ce qu'il y a des gens qui marquent un désintérêt pour la poésie, qui lisent jamais de poésie, qui ne lit jamais de poésie ici? Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est faut-il chasser les poètes de la cité? C'est évidemment une question qui peut paraître bizarre si on n'a pas de culture philosophique ou si il y a des textes à l'entrée, Nicolas. Ou si voilà, on a jamais entendu parler de Platon. En fait, c'est une question qui provient du livre le plus connu de Platon qui s'appelle La République, qui est un livre qui en contient 10, un livre en 10 livres en réalité. Alors on ne sait même pas si ces 10 livres sont vraiment de Platon, mais il se trouve que dans le livre 10, il est question de poésie et il est question de chasser les poètes de la cité. Et il faut bien, dès maintenant, que vous entendiez le fait que quand on va dire poésie ce soir, on ne voudra pas dire Baudelaire, Rimbaud, on ne voudra surtout pas dire la poésie rimée en alexandrin, etc. Quand on dira poésie, on entendra en fait l'activité artistique. Et quand Platon dit il faut chasser les poètes de la cité, ce qui veut dire, en fait le mot grec c'est poietes, l'activité c'est la poiesis qui veut dire la fabrication. Donc en fait quand Platon dit il faut chasser les poètes de la cité, on pourrait traduire avec un mot d'origine latine en disant faut-il chasser les artistes de la cité. D'habitude, tout le monde se moque de Platon. En disant mais c'est complètement saugrenu de dire qu'il faut chasser les poètes de la cité, la poésie c'est super génial, d'ailleurs j'ai écrit moi-même un petit alexandrin l'autre jour en sirotant un verre de vin, je vous le conseille, etc. Mon objectif de ce soir c'est de défendre Platon contre l'opinion qui nous traverse tous en essayant de vous montrer qu'on peut trouver une critique de cette idée chez Platon. Et je vais essayer de vous convaincre qu'il faut chasser les poètes de la cité. La question que pose Platon vous paraît peut-être complètement décalée, complètement antique. En réalité, elle est d'une actualité brûlante. Et on peut penser à plusieurs exemples que je vais lister. On en analysera certains. Vous en analyserez certains dans la discussion. Plusieurs exemples qui marquent le fait que la poésie ou l'art ou le fait de produire des images pose un gros problème politique. Parce que faut-il chasser les poètes de la cité? C'est le politique qui dit que les poètes, les artistes sont dangereux et qu'il faut donc les chasser. Songez par exemple aux affaires Charlie Hebdo. Qu'est-ce que les affaires Charlie Hebdo? Ce sont des représentations, des images qui causent un trouble politique énorme. Songez à l'affaire Dieudonné. C'est un type, un humoriste, qui dit des choses scandaleuses et qui provoque une polémique, même plusieurs polémiques nationales à répétition. Songez à un exemple plus structurant, qui est la réglementation sur les films lorsqu'ils sont interdits aux mineurs, pour des raisons de contenu pornographique ou parce que ce sont des films choquants, des films d'horreur, etc. Donc là, vous avez là aussi le pouvoir politique qui dit « Attention, ces images doivent être réglementées. » Et ceux qui ne respectent pas cette règle doivent être chassés de la cité. Ou songez encore à toutes les polémiques qui entourent les pièces de théâtre, par exemple sur le concept du visage de Dieu, qui est une pièce qui s'est produite notamment à Paris, qui a causé des manifestations, à Piss Christ, qui a causé des manifestations qui finalement ont été détruites. Ou songez plus récemment à l'œuvre d'Anish Kapoor, Le vagin de la reine, exposé dans les jardins de Versailles. Donc la question, en fait, si on la ressaisit à partir de notre actualité, vous voyez que la question de l'interaction entre le pouvoir politique et l'art est en réalité permanente. Donc la question, pour que vous l'ayez bien en tête, en fait, c'est faut-il chasser Anish Kapoor, Dieudonné, j'ai dit qui d'autre, Charlie Hebdo ou David Cronenberg, etc., de la cité. Pardon ? Non, bien sûr. Mais l'art peut poser un problème politique. En fait, quel est le grief que Platon fait à la cité ? Enfin, l'art ne se réduit pas à ces gens-là, mais vous voyez que tous les grands artistes, enfin, songez à la polémique autour de la sortie des Fleurs du Mal à l'époque ou de Madame Bovary, bizarrement, les artistes ont assez souvent eu un problème avec le pouvoir politique. Le grief que Platon fait à l'art, c'est d'introduire du mensonge dans la cité. Et en même temps, c'est d'introduire la corruption morale. Le problème, dit-il, c'est qu'il faut chasser les poètes de la cité, car ils imitent, ils produisent des œuvres d'art, sans aucun égard à l'égard des normes morales. Par exemple, Homère imite des dieux qui font la guerre, des dieux qui s'accouplent n'importe comment, et ça, c'est pas convenable. Oui. Donc l'artiste, son imitation, doit être soumise à une norme morale pour Platon. Et en même temps, le problème chez Platon lui-même, c'est que l'imitation est nécessaire à la cité. Par exemple, quand on fait un discours politique, on l'a vu un peu la dernière fois pour ceux qui étaient là, l'homme politique qui fait un discours politique, il se met en scène. Il essaie de produire un discours un peu vraisemblable. Il essaie d'être cru, d'emporter la conviction. Moi-même, je fais un peu des gestes comme ça pour que mon discours soit pas trop sec et que vous soyez un peu plus animé que si je parlais de manière monotone. Donc le simple fait de vouloir parler politiquement implique une certaine mise en scène et implique une certaine, un certain art de faire des discours. Donc, ce qui veut dire que si on en reste juste à Platon, il y a ce petit problème qui commence à se dégager, qu'on va dégager encore un peu, qui est que d'un côté, l'artiste imite et donc il ment, et d'un autre côté, le politique lui-même utilise des ressorts analogues aux ressorts de l'artiste, et donc d'une certaine manière, il ment aussi. Donc, peut-on chasser, le politique peut-il chasser le poète de la cité sans se chasser lui-même ? C'est ça en fait le problème. En fait, il y a deux problèmes qui sont entremêlés dans cette idée de « il faut chasser les poètes de la cité ». Il y a le problème de la vérité, d'une part. Est-ce que lorsqu'on imite quelque chose, on l'a travesti ? Et d'autre part, il y a le problème du bien. Est-ce que la représentation de certains héros, de certains dieux par exemple, fournit des modèles, on pensait à ces dieux antiques qui font n'importe quoi, qui corrompent les mentalités. Alors ça, c'est un problème assez intéressant parce que, en fait, on pourrait le résumer en disant, est-ce qu'une politique, et donc un politique qui exerce cette politique, peut faire l'économie de la transmission d'une vérité morale ? Ce qui rejoint, vous voyez, le problème qu'on a vu la dernière fois. La politique peut-elle se passer de vérité ? Et le problème se pose particulièrement dans le contexte de ce qu'on appelle les démocraties libérales. Alors, ou du moins dites libérales, qui se définissent, en gros, par la liberté d'expression, le fait que l'artiste est absolument libre de s'exprimer comme il veut, de produire les œuvres qu'il veut, sans subir aucune norme morale ou politique. Le problème, en fait, c'est de savoir, pour donner un exemple d'actualité, comment peut-on à la fois maintenir l'unité autour de, je cite, les valeurs de la République, qui sont censées fournir une sorte de vérité commune, qui nous rassemble, et en même temps la liberté d'expression, qui permet à chacun d'être d'accord ou pas avec ses valeurs communes. Vous voyez que le problème « faut-il chasser les poètes de la cité » se pose à l'époque de Platon, mais il se pose encore aujourd'hui dans les démocraties libérales qui sont complètement différentes de la cité antique et qui prétendent maintenir la liberté d'expression. En fait, quand on dit « il faut défendre les valeurs de la République », on dit « bah, y a plein de gens qui n'ont pas le droit de s'exprimer ». Est-ce que ça va ? Donc on va traiter ça en trois parties, en trois moments de la réflexion. En fait, je pense qu'il y a des élèves de terminale ici, je ne sais pas si on a. Oui, deux, trois. En fait, petite parenthèse méthodologique, une dissertation ne consiste pas à faire trois parties. Elle consiste à penser en trois étapes. Les trois parties, ce n'est pas thèse, antithèse, synthèse, c'est trois niveaux du raisonnement. Donc, et ces trois niveaux sont produits à chaque fois, sont relancés, enfin, la réflexion se relance à chaque fois par un nouveau problème. Donc, on va aborder ce soir trois niveaux de problèmes. Le premier, c'est de savoir si l'art peut avoir une norme, et notamment une norme politique. Et si l'art peut avoir une norme politique, de quelle nature est cette norme ? Qu'est-ce qui vient contraindre la liberté d'expression ? Si c'est une norme morale, est-ce que c'est au pouvoir politique d'imposer cette norme morale ? Parce que s'il y a une norme, alors l'artiste, et donc l'art, n'est plus autonome, n'est plus indépendant. Il devient dépendant, en effet, d'un pouvoir politique, directement ou indirectement. Pensez à toutes les pratiques de censure. Et ça, évidemment, ça choque la modernité, mais on verra qu'en dernière instance, aujourd'hui encore, c'est le pouvoir politique qui décide si telle ou telle œuvre peut être produite ou pas. Deuxième niveau de problème, la politique elle-même, dans son expression elle-même, le politique peut-il se passer d'art ? Car si l'art est par essence mensonger, alors une politique, du moins une politique qui voudrait tendre au vrai, devrait se passer totalement de l'art. Donc on s'interrogera aussi sur la question de savoir si l'art est forcément mensonger. Troisième niveau de problème, qu'on trouve souvent, alors petit conseil aussi méthodologique, à partir du présupposé de la réflexion jusqu'à la fin cette deuxième partie. Et là, le présupposé qui préside à l'interdiction de certaines œuvres, c'est que ces œuvres transmettent des modèles qui corrompent, et notamment qui corrompent la jeunesse. Donc en fait, on essaiera d'analyser cette idée qu'il puisse y avoir une corruption par l'imitation de la jeunesse et plus généralement de la société. Et c'est l'idée que je vais essayer de soutenir. Contre la doxa. Alors, ce soir, j'ai un petit parti pris. C'est que je vais traiter ces trois problèmes uniquement à partir de Platon. Et en fait, mon objectif pédagogique, pour parler comme dans l'éducation nationale, c'est de vous montrer ce que c'est qu'un grand auteur comme Platon. Une grande pensée articule en elle-même une certaine multiplicité. Platon, ce n'est pas un système, ce n'est pas une pensée d'un seul bloc. C'est une pensée en plusieurs temps. Et on va voir que cette multiplicité de temps de la pensée de Platon, elle convient parfaitement à notre sujet. Et donc on va voir comment Platon lui-même, et on va commencer par ça, peut être un critique de l'idée selon laquelle il faudrait chasser les poètes de la cité. Comment Platon lui-même permet de penser que la politique a besoin des artistes. Donc, premier problème, celui de la norme de l'art. Qu'est-ce qui peut conduire à l'idée qu'il faille imposer à l'art une norme ? Cette idée, je pense qu'elle vous choque. Du moins, je pense qu'elle choquerait n'importe qui. Elle choque en tout cas nos mentalités, disons, libérales et romantiques. Car dans nos mentalités, l'artiste doit être libre d'exprimer son génie. Et la notion de génie, je ne sais pas si certains ont fait un peu de latin ici. Oui, j'en vois qui sourit, donc ils ont dû faire du latin. La notion de génie dit bien cette idée d'expression de la nature propre de l'artiste. Le genus, c'est le genus, c'est ça en latin ? Le genus, c'est la nature propre, en quelque sorte, de l'artiste. En grec, le genos, c'est même la lignée ou la race d'une espèce animale d'une lignée humaine. Donc vous voyez que penser l'art à partir de la notion de génie implique que l'art est pensé comme une forme d'expression de la nature profonde de celui qu'on appelle artiste. Et par conséquent, l'idée d'obstruer cette expression de la nature profonde de l'artiste nous choque profondément. Alors, j'ai fait un petit écart, je commence par faire un écart à mes principes, donc c'est aussi pédagogique, en vous mettant un texte de Rousseau, donc Rousseau n'est pas un romantique, mais ce texte préfigure un peu la physionomie de l'artiste romantique. Donc cette idée de d'expression du, en fait, du moi profond, vous voyez. Donc on va le lire. Et après on passera aux choses sérieuses. Donc le premier mot, hein, je. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de sa nature, de la nature. Et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, donc les confessions, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien eu de mauvais, rien ajouté de bon. Et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères, que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose, je fus meilleur que cet homme-là. Alors, on ne va pas analyser chaque mot de ce texte, on pourrait le faire évidemment. Je vous l'ai donné parce que ça préfigure vraiment cette idée que j'ai qualifiée de romantique, on pourrait discuter de cet adjectif, selon lequel l'art serait une expression, et une expression de la nature profonde de l'artiste. Selon cette idée, et on le voit très bien dans le troisième paragraphe de ce texte, l'art ne saurait souffrir d'aucune norme, du moins d'aucune autre norme que Dieu lui-même. Rousseau ne se présente pas tant aux autres hommes que, vous voyez, la mise en scène à Dieu lui-même. L'artiste n'a de compte à rendre sur sa nature profonde qu'à son créateur, donc à Dieu lui-même. Ce qui consiste à la fois à élever l'œuvre d'art jusqu'au regard divin. L'œuvre d'art, ce n'est pas juste une fabrication, un petit artisanat local dans lequel on fabrique ses petits verres dans son coin. C'est vraiment l'expression de sa nature devant Dieu lui-même. Et en même temps, cette élévation de l'art consiste à la franchir de toute norme. Or, le problème, c'est que de fait, l'art n'est pas seulement une expression, n'est pas seulement l'expression d'un sens. Elle implique aussi une part de fabrication. Et en tant que fabrication, l'art est soumis à certaines normes. Une norme, qu'est-ce que c'est ? C'est un certain cadre, une certaine limite fixée a priori à la fabrication des œuvres. Ce cadre, il peut concerner la forme même de l'œuvre. Par exemple, à certaines époques, on dit un poème, ça doit se faire en alexandrin. Donc vous écrivez en alexandrin. Un poème, ça doit se faire avec 8 pieds, donc c'est avec 8 pieds, etc., etc. Et peut-être que vous vous dites, mais ça c'est du passé, il n'y a plus de normes formelles comme ça aujourd'hui dans l'art. On peut écrire un roman comme on veut, en commençant par la fin, par le milieu... avec des moments des alexandrins, des moments de la prose, on peut faire ce qu'on veut aujourd'hui en termes de forme. La poésie elle-même peut se passer de ponctuation. Et pourtant, même encore aujourd'hui, au niveau de la forme des œuvres, il y a encore de la norme. Songez par exemple à l'orthographe. Les artistes qui écrivent sans orthographe ne sont pas connus. Or, l'orthographe est une certaine norme politique. L'orthographe implique une institution qui produit chaque année un dictionnaire, depuis quelques centaines d'années, qui s'appelle l'Académie française, et qui soumet la totalité d'un territoire à une même norme orthographique. Et ça, en France, c'est un enjeu politique énorme. La question de la soumission de chaque territoire français à une seule et même norme non seulement orthographique mais en plus linguistique puisqu'il y avait des patois différents, c'est un enjeu politique très fort. Donc le simple fait de parler nous inscrit dans l'espace, disons, d'une certaine norme politique. Donc on voit que même au niveau formel des œuvres et plus généralement du langage, on trouve, je vais employer un petit mot de philosophe, une certaine normativité. C'est-à-dire la présence d'une certaine norme. Ce qui ne veut pas dire, donc je précise un peu cette idée, qu'on ne peut pas trouver des exceptions. On trouve encore des gens qui parlent en patois, on peut très bien imaginer une œuvre sans orthographe, faite par, qu'avec des textos, vous savez, l'écriture texto. Mais ça reste des exceptions qui se situent par rapport à cette norme et qui, quelque part, ne font que la confirmer. Et vous voyez que cette présence de la norme sur n'importe quelle activité linguistique, et donc plus généralement sur toutes les productions artistiques du langage, nous permet de toucher, enfin de comprendre un peu mieux ce qu'il se passe chez Platon quand il dit qu'il faut soumettre les artistes à certaines normes politiques. En effet, c'est pas comme si Platon se disait un beau jour, ah bah tiens, il y a des artistes, il faudrait mettre un peu d'ordre dans tout ça, on va réglementer un peu tout ça, et puis on va mettre des normes. En fait, Platon, quand il dit qu'il faut soumettre les artistes à certaines normes, et on verra lesquelles, il parle dans un contexte où il y a déjà de la norme imposée aux œuvres. La cité antique, surtout, prescrit des normes très fortes aux œuvres et en particulier aux représentations théâtrales, qui sont au cœur de la cité. Vous savez peut-être un peu comment se passaient comment ça se passait dans les théâtres antiques. C'était vraiment un moment politique majeur où toute la cité, du moins tous les citoyens, se retrouvaient et, disons, communiaient ou vivaient d'une seule et même intensité. Et c'est la raison pour laquelle la cité antique, dès avant Platon, réglemente les représentations théâtrales. Donc le politique contrôle le poétique. Et s'il le contrôle, c'est parce que le poétique, donc le fait de fabriquer des œuvres, est déjà politique. Et donc Platon va proposer des normes assez simples. Il faut que les œuvres respectent la vérité et le bien. Et donc c'est le texte 2. qui est un texte extrait d'un passage où il est question de ces gardiens de la cité et de leur éducation. Comment éduquer ceux qui vont garder la cité ? Alors, qu'est-ce que Platon entend par gardien de la cité ? C'est le sujet de ma thèse. C'est assez compliqué, mais il y a l'idée que voilà, la cité a besoin d'être protégée. Protégée de quoi ? De sa propre destruction. Et donc, il faut éduquer des gardiens qui la protègent de cette destruction. Alors comment les éduquer, ces gardiens ? Socrate. Il faut éduquer d'abord avec les discours faux. Donc si je vous mets ce texte, c'est pour que vous sortiez, si vous y êtes, de l'idée selon laquelle Platon serait un bêta qui veut chasser les poètes de la cité. Première phrase de ce texte, il faut éduquer les gardiens de la cité, donc ceux qui vont nous préserver de la guerre civile, par des discours faux. Adimante. Je ne comprends pas, dit-il. En quel sens tu dis cela ? Tu ne comprends pas, dis-je, c'est Socrate qui parle, que nous commençons par raconter des histoires aux enfants. Or cela, dans l'ensemble, n'est-ce pas, est de l'ordre du faux, même s'il s'y trouve du vrai. Et nous avons donc recours aux histoires devant les enfants, avant d'avoir recours à l'exercice nu. Oui, c'est cela. C'est bien ce que je disais, qu'il faut s'attacher à la musique avant de s'attacher à la gymnastique. La musique, petite parenthèse, ça ne veut pas dire qu'il faut écouter Mozart et Beethoven. La musique, chez un grec comme Platon, c'est l'ensemble des arts, en fait. C'est l'ensemble de ce qui s'inspire des muses. Muse, musique. C'est correct, dit-il. Or, tu sais que le commencement de toute œuvre, c'est le plus important, en particulier pour tout ce qui est jeune et tendre. Car c'est surtout à ce moment-là que chaque être se modèle et que s'enfonce le mieux le caractère qu'on veut imprimer en lui. Oui, parfaitement. Est-ce qu'alors nous laisserons aussi facilement les enfants écouter les premières histoires venues, modelées par les premiers venus, et recevoir dans leurs âmes des opinions pour l'essentiel opposées à celles que nous croyons qu'ils devront avoir lorsqu'ils seront des hommes faits ? Hommes faits, hommes accomplis. Il nous faut donc d'abord, semble-t-il, superviser les créateurs d'histoire, superviser les créateurs d'histoire, approuver l'histoire qu'ils créeront, si elle est convenable, et sinon, la désapprouver. Et celles qui auront été approuvées, nous persuaderons les nourrices et les mères de les raconter aux enfants et de modeler leurs âmes par ces histoires, bien plus encore qu'elles ne modèlent leur corps avec leurs mains. Quant à celles qu'elles racontent à présent, donc les histoires que racontent les nourrices, pour la plupart, il faut les rejeter. Donc là, on comprend mieux pourquoi est-ce que Platon nous dit qu'il faut réglementer la production des œuvres d'art. Dans ce texte, il le dit dans un cadre très précis, qui est le cadre éducatif. On ne raconte pas n'importe quelle histoire aux enfants. Parce que les histoires que l'on raconte aux enfants contiennent certains modèles. Tel garçon veut être comme le prince dont il a entendu l'histoire. Telle fille comme la princesse. Tel garçon comme la princesse. Faites comme vous voulez. Chacun son truc. Donc les histoires ne sont pas seulement le récit d'action fait par des personnages. Ils sont aussi, à travers ce récit d'action, des modèles d'action que les enfants apprennent. Et donc, ce qu'il faut absolument, c'est que les modèles qui sont transmis aux enfants par les histoires qu'on leur raconte le soir, par exemple, soient des modèles qui soient conformes au bien. Par exemple, de ce point de vue-là, je pense que Platon n'aurait pas été super chaud pour qu'on raconte le petit chaperon rouge aux enfants. Parce que le petit chaperon rouge, c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne fait pas très attention et qui finit par tomber dans le lit du loup. Vous voyez ? Est-ce que c'est moral ? Pas sûr. Et le fait que ça soit pas sûr, c'est discriminant pour Platon. Il faut que le modèle soit clairement transmis. Alors peut-être que vous avez l'impression que c'est complètement saugrenu. Et d'habitude, de fait, on lit ce texte, ce genre de texte, un peu avec moquerie. En disant, quand même, nous maintenant on est avancé, les artistes peuvent s'exprimer, les gens peuvent bien voir les œuvres qu'ils veulent, etc. C'est peut-être croire un peu trop vite que nous sommes dans une démocratie libérale parfaitement accomplie, voire dans une démocratie libertaire dans laquelle effectivement régnerait une liberté d'expression absolument parfaite. Or, on peut citer, par exemple, à l'encontre d'une telle idée, l'exemple des lois sur les restrictions cinématographiques qui sont faites aux mineurs. Au nom, je cite, de la protection de la jeunesse. La production même des œuvres, en France aujourd'hui, est soumise à un contrôle politique soumis au principe du respect de la dignité de la jeunesse. Sous la responsabilité d'une institution politique, le CNC, je ne sais pas si vous connaissez, qui, comme ses initiales ne le disent pas, veut dire Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Alors, petite parenthèse, hein, s'il y en a qui connaissent le CNC ne fait pas que ça, il ne fait pas que dire attention, il y a une cuisse qui dépasse, etc. Mais il fait ça aussi. Donc par exemple, je suis allé voir le code du cinéma et de l'image animée, donc qu'il a la responsabilité de faire respecter, et qui prescrit que si l'on veut obtenir un visa d'exploitation pour un film, avant même, enfin c'est l'article que je vais vous lire, et avant même la question du paiement de la taxe, donc ça montre que c'est un principe plus important, il faut se soumettre à cela. Article L211-1. La représentation cinématographique est subordonnée... cette phrase est complètement folle. La représentation cinématographique est subordonnée... Quoi ? Subordonnée ? La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Donc, pour obtenir un visa, donc pour exister, vous devez vous soumettre à certaines normes prescrites par le ministre de la Culture. Je continue la citation. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'État. Cela signifie que toute œuvre voulant obtenir un visa d'exploitation est soumise au respect de je cite, la dignité humaine. Donc, encore aujourd'hui, en dernière instance, le pouvoir politique fixe un cadre, a priori, à la production de n'importe quelle œuvre, ce qu'il appelle dignité humaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? On en parlera peut-être. Or, cela présuppose, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissiez, moi je trouve ça assez intéressant, cela présuppose non seulement que le politique peut avoir un regard sur le poétique, mais aussi que le politique est un lecteur, un spectateur critique du poétique. Il produit une opération de jugement qui fait de lui plus qu'un simple ordonnateur, vous voyez, des intérêts particuliers. Là, le politique produit un jugement moral. Il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça sort du cadre, ça doit pas exister. Ce qui présuppose une certaine idée de la loi, qui ne serait pas dès lors simplement une norme politique, mais qui serait aussi une norme morale. La loi, même aujourd'hui, est une norme morale, même dans les démocraties libérales. C'est d'ailleurs la raison, entre parenthèses, pour laquelle les libéraux conséquents sont pour l'abolition de telles normes. Donc, faut-il chasser les poètes de la cité ? On voit qu'à ce niveau, le politique chasse certains poètes de la cité, et les autres, il les contrôle. La fabrication d'œuvres d'art, dans ce premier moment, n'est pas contraire à la politique. On peut même se demander si, dans cette activité de lecture des œuvres que le politique est forcé de faire, il ne se fait pas lui-même un peu poète, au moins dans la mesure où il a pour mission d'évaluer les œuvres. Une sorte d'artiste raté, vous voyez. Enfin, je sais pas, c'est ce qu'on dit souvent sur les critiques. Les critiques, c'est souvent des artistes ratés. Bah, en fait, le politique, c'est le critique fondamental de toutes les œuvres qui sont produites. Donc, en fait, je trouve ça amusant. On pourrait penser le politique comme un artiste raté. Moi, ça m'inspire. Et on pourrait pousser cette idée un peu plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas dans le caractère public de l'homme politique toute une dimension poétique, dans le sens où le politique doit produire des discours beaux, des discours imagés, et pas seulement des rapports de la Cour des comptes. Vous voyez, quand vous écoutez un grand homme politique, bon, par exemple François Hollande, pourquoi vous souriez, il ne parle pas comme un responsable de la Cour des comptes. Il essaie de mettre un peu de rythme dans ses paroles. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Peut-être un peu saccadé, quoi. Mais on ne lui en fera pas grief ici. Et c'est ce qui distingue précisément le politique, l'homme politique, de celui qui dirige une administration. Pensez, par exemple, à la mise en scène à laquelle se livrait De Gaulle. Ne serait-ce que dans le ton de sa voix. Français, française. Et il aurait pu dire français, française. Je vous invite à résister, etc. Et bien non, il met un peu d'art dans son discours. Et donc le problème qui se pose maintenant, et je pense qu'on ne verra pas le troisième, c'est de savoir si le politique peut se passer de poétique, c'est-à-dire de cet art de bien présenter les choses, de cet art de rendre son discours vraisemblable. Donc, pour ceux qui étaient là la dernière fois, on a vu que le politique s'appuie sur l'imaginaire. Et même si on imagine un politique parfaitement rationnel, ce qui pourrait arriver, on ne sait jamais, il s'adresse à des êtres qui ne sont pas totalement rationnels. Vous voyez, qui dorment à moitié, qui écoutent à moitié. Vous voyez, un peu comme vous ce soir. Vous voyez. Moi, je suis un peu le politique et puis vous êtes les citoyens. Et donc, je sais que vous n'êtes pas parfaitement rationnel, donc il faut que je mette un peu de conviction dans mon discours pour que vous en ayez vous-même. Et donc, je dois recourir au vraisemblable. Je dois sembler, je dois paraître vrai. Le vraisemblable, ce n'est pas le faux, c'est ce qui semble vrai. Et ce qui semble vrai peut être vrai. Et le vrai lui-même peut quelquefois n'être pas vraisemblable, comme disait Boileau dans son Art poétique. Ce que le discours vraisemblable a de plus que le discours vrai, c'est qu'il emporte la conviction. Celui qui s'en tient au discours vrai donne l'impression, enfin peut donner l'impression de parler pour rien. Vous voyez, si je... Enfin, reprenons cet exemple de celui qui parle, qui donne le rapport de la Cour des comptes annuel. Bah, je suis sûr que personne ici ne l'a écouté. Alors que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont regardé Vals samedi soir sur France 2. Oui ? Non, personne. Ouais, vous êtes vraiment hors du monde, hein. Vous êtes des philosophes en fait. Pardon ? Non, non, moi j'ai pas réussi. Parce que moi je suis déjà au niveau du vrai, moi. J'essaie de vous y attirer. Et c'est un peu la critique que fait Caliclès à Socrate, le fait de se tenir au vrai et de ne pas rentrer dans le vraisemblable. Dans le Gorgias, c'est le texte 3 que l'on va lire maintenant, si vous le voulez bien. Donc c'est un moment où Caliclès fait une série de critiques à Socrate. Il me vient l'idée de t'adresser des paroles tout à fait pareilles à celles que Zéto s'adressait à son frère. Tu n'as point souci, Socrate, te dirais-je, de ce dont il faut que tu te soucies. Et le naturel à ce point généreux de ton âme, tu le déformes par un enfantillage apparent. Tu ne saurais sans doute, ni dans les délibérations d'un procès, produire comme il faut une proposition, ni mettre la main sur ce qui est vraisemblable et persuasif, ni te résoudre en faveur d'autrui à quelque résolution énergique. Donc, Caliclès fait cette critique à Socrate. Attention, Socrate, tu t'intéresses à la vérité, mais pas au vraisemblable. Ça pourrait te coûter ta vie. En vérité, mon cher Socrate, et ne m'en veuille pas, car ce sont mes bonnes dispositions à ton égard qui vont me faire parler, ne te semble-t-il pas honteux de te comporter comme, à mon avis, tu te comportes, ainsi que ceux qui, en plus de toi, poussent toujours plus avant dans la philosophie ? Maintenant, vois-tu, suppose que s'étant saisi de toi, ou de tel autre de tes pareils, on vous traîne en prison, en vous prétendant coupable d'un crime dont vous ne seriez nullement coupable, ne sais-tu pas bien que toi, tu serais incapable de te tirer d'affaire ? Mais non, le vertige te prendrait. Tu serais là, bouche bée, sans savoir que dire, sans trouver que dire. Et le jour où tu te présenterais à la barre du tribunal, rencontrant en face de toi un accusateur plein de malveillance et de perversité, tu serais mis à mort s'il lui plaisait de requérir la mort contre toi. Quelle sagesse, pourtant, est-ce là, Socrate ? Un art qui, une fois qu'il a mis la main sur un homme bien doué naturellement, l'a rendu pire. Donc là, il parle de la philosophie. L'a rendu aussi impuissant à s'assister lui-même qu'à sauver des plus grands périls et lui-même et personne d'autre. Exposé à être par ses ennemis, dépouillé de tout ce qu'il possède, à tout bonnement vivre, méprisé dans son pays. Un tel homme, il est permis de le frapper à la joue sans avoir à en répondre. Crois-moi plutôt, mon bon, mets un terme à tes chicaneries, on parle encore de la philosophie. Exerce-toi à la belle musique des actes, à la belle musique des actes. Exerce-toi à ce qui te donnera le moyen de passer pour un homme de sens, abandonnant à d'autres ses finesses, soit qu'il faille les traiter de bavardage ou que ce soit des balivernes dont le fruit est que tu logeras dans une demeure vide, jaloux d'imiter non pas des gens qui chicanent sur ces riens, mais ceux qui ont moyen d'existence, réputation et une foule d'autres biens. Critique que fait Caliclès à Socrate, tu t'intéresses au vrai, la philosophie s'intéresse seulement au vrai, et par conséquent elle devient impuissante, politiquement, par exemple à se défendre dans un tribunal, dans le cas où elle serait accusée, par exemple, c'est le cas de Socrate, d'impiété et de corruption de la jeunesse. Et de fait, si Caliclès, vous le savez, peut-être devient un tyran, et donc une part de critique dans ce texte de Platon, à l'égard de Caliclès, Caliclès a bel et bien raison, puisque Socrate mourra en se défendant à peine devant ses bourreaux. La politique a donc besoin du vraisemblable, et par conséquent, elle utilise des ressorts qui sont ceux de n'importe quelle production artistique. Il est 47. Voyez comment le politique se met en scène. C'est le point par lequel le politique se distingue de l'homme de science. Le politique fait appel à une autre faculté de l'âme que le scientifique. Le scientifique, on peut dire, il fait appel uniquement, et encore, il faudrait préciser, uniquement à la pure rationalité. Le politique, lui, a recours à l'émotion. Et cette émotion est mise en scène par le politique. C'est d'ailleurs ce que le politique a d'insupportable dans certaines circonstances. Cette mise en scène de l'opinion, de l'émotion. Pensez à ce qui s'est passé après les attentats du 7 janvier ou du 13 novembre. la mine grave et compassée du politique qui vient devant les caméras dire que la situation est grave, que nous sommes en guerre, qu'il faut lutter contre le terrorisme. Tout ça relève de la mise en scène. Il y a un certain dispositif, des caméras, des conseillers en communication qui ordonnent le tout, qui font la liaison avec le politique. Et dans des circonstances comme les attentats, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, je trouve ça parfaitement insupportable. Et en même temps, c'est absolument nécessaire. Il y a un côté, pour ceux qui étaient là la dernière fois, demi-habile dans le fait de dire « Ah, le politique, il met tout en scène, c'est vraiment un menteur. » Il est obligé de mettre tout en scène. Car sinon, vous ne l'écouteriez pas. Il est obligé de produire une émotion pour que vous soyez mu quand vous l'écoutez. C'est la raison pour laquelle on peut penser, et du coup, je m'arrêterai là, sauf si vous voulez que je continue, mais je pense que déjà 49, que la politique peut être pensée comme réglementation des émotions. Il y a des émotions à ne pas encourager, et encore aujourd'hui. Pensez à tous ces... Enfin, ça m'avait frappé pendant l'affaire Dieudonné, au fait que ce qui était reproché fondamentalement à cet artiste, c'était qu'il incitait à la haine. La haine. Donc ce qui lui était reproché, donc je ne juge pas du fond de l'affaire, mais ce qui lui était reproché, c'était de susciter des émotions qui dissolvaient, qui détruisaient le lien politique. Ce qui présuppose que le politique joue alors, ou prétend jouer alors, non pas seulement le rôle de quelqu'un qui ordonnerait les différents intérêts particuliers et rationnels des individus, mais le rôle d'un organisateur des affects présents dans une société. Et s'il organise les affects, donc les émotions présentes dans une société, c'est au nom de l'unité politique. Ce qui rejoint une idée profondément platonicienne. Platon, en effet, à la fin d'un livre absolument passionnant que je vous conseille de lire, qui s'appelle « Le politique », définit le politique comme un tisserand. Le politique a pour fonction propre de tisser entre eux les caractères de la cité. Le politique perçoit donc les différents citoyens comme un ensemble de fils qu'il a pour mission de lier. Alors, ces fils, ce sont, dit Platon, des caractères. Ce sont, dit-il, des gens qui tendent à tel ou tel affect. D'une part, ceux qui sont plutôt des modérés, des doux, des rationnels. Et d'autre part, ceux qui sont plutôt des gens violents, émotifs, forts, brutaux, etc. Le rôle du politique, pour Platon, c'est de marier ensemble ces différents caractères. Si on analyse ce qu'il veut dire, le rôle du politique, c'est de tisser ensemble les émotions des citoyens pour que l'unité de la cité soit sauvegardée. L'art politique consiste à avoir l'intelligence de trouver les combinaisons affectives les plus durables, en entremêlant les bonnes émotions. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, d'un point de vue platonicien, non seulement il ne faut pas chasser le poète de la cité, mais le politique lui-même doit se faire d'une certaine manière poète pour produire les émotions qui, dans la cité, seront de nature à préserver l'unité politique. Aujourd'hui, le politique, dans cette conception, serait celui qui a pour fonction de produire des émotions propres à ne pas attiser la haine, par exemple, à ne pas dissoudre le lien social. Je vais donc m'arrêter là, mais sachez qu'il est possible de défendre l'idée selon laquelle il faut chasser les poètes de la cité. Je vais juste résumer du coup ce que je vous aurais dit. Si le temps s'écoulait plus lentement, mais hélas, il y a une certaine objectivité du temps qui s'écoule toujours à un rythme objectif, c'est que l'idée profondément platonicienne qui conduit à cette idée sur laquelle il faut chasser les poètes de la cité provient du fait que pour Platon, le problème de l'artiste n'est pas qu'il imite et qu'il produit des modèles faux ou mauvais, c'est qu'il produit chez ceux qui l'écoutent une certaine indifférence au vrai. En fait, le problème de l'artiste pour Platon, c'est qu'il a tendance à produire du spectacle, c'est-à-dire des œuvres que l'on regarde pour elles-mêmes, sans aucun souci du vrai. Et donc pour Platon, le problème, c'est qu'il déshabitue les citoyens du vrai. Du moins, il n'éduque pas leur désir de vérité. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour Platon, car une cité, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, donc c'est pour ça que je ne développe pas aujourd'hui, une cité ne peut pas se passer de vérité. Dans chacun de ses actes, on a besoin d'un minimum de vérité. Donc si le poète doit être chassé de la cité, c'est pas parce qu'il imite, c'est parce qu'il l'habitue à ce qu'on regarde seulement l'imitation, seulement le doigt et pas ce qu'il montre, seulement l'œuvre et pas ce qu'elle représente. Ce qui veut dire, et donc je conclue ici, que si l'imitation pour Platon n'est pas condamnée en elle-même, il faut distinguer entre deux types d'artistes. Ceux qui se complaisent dans le spectacle de leurs propres œuvres, ils sont Jésus, ils sont Légion, et ceux qui nous conduisent à autre chose, au vrai. Et ça, c'est précisément la poésie que Platon prétend faire. Pour lui, je finirai par là, la philosophie est, dit-il dans les lois, la plus grande des tragédies, c'est-à-dire la plus belle des œuvres d'art. Et donc ce qu'il veut, ce n'est pas tant chasser l'art de la cité que de produire un art d'une nature supérieure qu'il appelle la philosophie. Je vous remercie.